Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien Rousseau, responsable de l'unité patrimoniale Asie au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et nous expliquer en quoi consiste votre rôle de référent scientifique au sein de l'exposition Kimono qui se déroule actuellement au musée du Quai Branly, si je ne me trompe?
Oui, bonjour. Eh bien, je suis donc Julien Rousseau. Je suis conservateur des collections d'Asie. Et donc, j'ai participé à l'exposition Kimono, dans laquelle j'étais référent scientifique, c'est-à-dire que je ne suis pas le commissaire de l'exposition. C'est pas moi qui l'ai faite. C'est une exposition qui a été produite par le Victoria and Albert Museum de Londres et qui fait un tour, en fait, hein, un tour d'Europe, voilà, un petit peu en quelque sorte, qui ira ensuite en Suisse. Et voilà, donc c'est le Victoria and Albert Museum qui a fait cette exposition. Et moi, donc pour ma part, je suis donc responsable des collections d'Asie du musée. Donc je m'occupe des collections, des espaces permanents, des vitrines, des changements de vitrines, et puis de toute la recherche et de la diffusion aussi de la connaissance autour de ces collections d'Asie du musée.
Est-ce que vous pourriez nous présenter l'exposition Kimono?
Oui, alors c'est une exposition qui propose une sorte d'historique en fait de ce vêtement, le kimono, donc assez iconique en fait, qui est assez lié à notre imaginaire en fait du Japon. Et elle commence à partir de l'époque qu'on appelle l'époque Edo, donc c'est aux alentours du XVIIe siècle, au moment où la capitale du Japon se déplace vers Edo, donc qui est l'ancien nom de Tokyo. C'est une période aussi plus largement qui est liée au développement des arts populaires, en particulier aussi de la mode. C'est pour ça que c'est une période importante aussi pour l'évolution du kimono. Et puis ensuite, donc après cette introduction, ce début d'exposition à l'époque Edo, on voit l'évolution du kimono à la fois dans son rapport avec les modes étrangères, donc comment est-ce que le vêtement occidental va influencer le kimono, et puis à l'inverse, comment le kimono va se diffuser dans le monde entier et comment il va influencer la mode et le vêtement jusqu'à aujourd'hui.
On comprend que le kimono est donc un habit traditionnel au Japon. Comment est-ce qu'on reconnaît un kimono? On entend également parler de yukata des fois. Il me semble qu'on utilise aussi le terme kosobe. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le sens de ces désignations?
Alors, le vêtement traditionnel, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un jean, c'est un vêtement traditionnel. Voilà, dans toutes les cultures, on porte des vêtements traditionnels, et puis la manière dont on s'habille aujourd'hui en France, ça pourrait peut-être paraître assez curieux du point de vue d'autres cultures. Alors le kimono, bien sûr, c'est un terme générique. Il y en a de toutes sortes, hein. Il y a des kimonos d'été, d'hiver, des kimonos masculins, féminins. Tout le monde les porte sous avec des motifs et des formes différentes, bien sûr, en fonction de l'âge de la personne, de son sexe, etc., du statut social aussi. Il y a des kimonos très luxueux, des kimonos beaucoup plus simples. Voilà, après, ce qu'on appelle les yukata, par exemple, sont plutôt des vêtements, un peu comme des robes de chambre, hein, des vêtements qu'on porte à la maison. Les kosode sont des kimonos, c'est des types de kimonos, en fait, hein, kimono d'été, plutôt à manches courtes. Voilà, il y a toute une variété en fait de vêtements qui sont désignés sous ce nom générique en fait de kimono. Voilà, en fait, ce qui caractérise le kimono, c'est le fait surtout que ce soit un vêtement assez ample, c'est-à-dire qu'il ne suit pas les formes du corps. Donc ça, on peut dire que oui, traditionnellement au Japon, le vêtement n'est pas fait pour montrer les formes du corps. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément esthétique, ou le vêtement cherche pas à montrer le corps. Et puis c'est aussi un vêtement qui utilise des grandes pièces de tissu, donc on le voit au début de l'exposition, très peu de couture, et puis qui permet de montrer aussi, de créer beaucoup de décors.
Tout à l'heure, vous nous parliez de l'époque Edo. à l'origine, qui portait un kimono et est-ce qu'aujourd'hui, tous les Japonais portent un kimono à un moment de leur vie ou est-ce que c'est réservé du coup à juste un type de personne ou certains moments?
Bah, c'est un petit peu comme on imagine une veste, voilà, tout le monde peut porter une veste. Après, il y a des vestes de haute couture, il y a des vestes qui sont très formelles, et puis après, il y a des vestes qu'on met pour aller faire les courses, ou voilà. Le kimono, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que tout le monde, encore aujourd'hui, hein, on porte le kimono pour un moment important, pour aller visiter un temple ou pour une fête de famille ou voilà, différentes occasions, mais c'est un vêtement qui peut être plus ou moins formel, on porte pas forcément tous les jours, mais qu'on porte régulièrement. Et puis c'est un vêtement voilà qui peut être de différents usages en fait, hein. Ça peut être un vêtement de très simple ou très très luxueux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins de vêtements vintage aujourd'hui au Japon. Et voilà, par exemple, on peut acheter aujourd'hui très cher des kimonos anciens qui étaient avant des kimonos assez ordinaires, mais comme ils sont bien conservés, qu'ils sont anciens, voilà, ils sont devenus un petit peu rares. Ou alors il y a des kimonos qui ressemblent un petit peu, enfin qui sont vraiment produits par des créateurs en fait, et qui utilisent des soies, des matériaux très très précieuses aussi. Voilà, donc il y a tout un ensemble d'usages et de types de kimonos.
Est-ce qu'il y a une manière unique de porter un kimono ou est-ce qu'il y a plusieurs manières de le porter?
Alors, oui, il y a plusieurs manières de le porter, évidemment. Déjà, il y a le sens du revers, du nœud, etc., qui enfin, classiquement était lié, par exemple, au statut de la personne ou à son âge, et qui aujourd'hui, voilà, sont liés plus à des modes, hein. On peut les porter différemment, mais généralement, la forme du kimono est resté assez fixe, hein. C'est toujours la même et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de ce vêtement. C'est un vêtement qui est très confortable et qui peut être porté vraiment par n'importe qui.
Concernant les matières, les motifs et les couleurs qui sont présents sur les kimonos, est-ce qu'il y a des symboliques particulières ou pas spécialement?
Bah oui, des symboliques, il y en a toujours. Il y a par exemple, il y a des motifs floraux, il y a beaucoup de. Alors, ça ressemble un petit peu aux arts graphiques, en fait, les décors des kimonos. Ils peuvent être brodés, tissés, appliqués ou même peints parfois sur les kimonos. Mais les motifs, bah voilà, ce sont les motifs du répertoire iconographique des arts japonais. Donc, il y a par exemple les motifs floraux, il y a la fleur de cerisier qui représente l'impermanence. Aussi le printemps, donc c'est une fleur aussi de bon augure. Il y a la pivoine qui est une fleur aussi qui est assez résistante en fait à l'automne, donc qui représente aussi la longévité. Voilà, il y a toute une symbolique par exemple autour des motifs floraux. Il y a parfois des caractères aussi, des écritures qui sont en fait des citations souvent littéraires, de textes classiques de la littérature. Voilà, il y a tout un tas de symboles. Il y a parfois des dessins qui s'associent avec des mots, avec des symboles et qui forment un petit peu des sortes de rébus. Voilà, évidemment, nous, quand on les voit, on ne les comprend pas comme ça tout de suite. Mais quand les mots sont prononcés, les objets qui sont représentés dessus sont prononcés, ça forme en quelque sorte des rébus. Voilà, il y a tout un tas de décors possibles, hein, sur ces vêtements.
Alors, un élément dont on n'a pas encore parlé concernant le kimono, c'est la ceinture. Est-ce que vous pourriez nous parler des manières de porter la ceinture qui est désignée donc sous le terme d'obi et quel message ça envoie selon la manière dont on le porte?
Alors, le nœud de la ceinture, bah, c'est surtout pour les kimonos féminins. Donc évidemment, il y a des manières de nouer, de porter la ceinture en fonction de si on est une jeune femme mariée ou non. Pour certaines occasions, pour le mariage par exemple, il y a des kimonos de mariage, des nœuds aussi spécifiques. Donc voilà, la ceinture aussi, à un moment donné, Si vous voyez l'exposition, vous verrez, à un moment donné, on raconte le moment où le gouvernement japonais, qui à l'époque Edo est encore un gouvernement assez conservateur, en fait, ce sont toujours des militaires hein, qui sont au pouvoir et qui vont essayer d'imposer des tenues un petit peu plus sobres dans les lieux publics et donc qui vont censurer en fait les kimonos qui sont trop colorés ou trop voyants. Donc les vêtements vont devenir un petit peu plus ternes et plus neutres. Mais les ceintures, qui n'étaient pas, elles, concernées par ces lois de censure, sont devenues plus grandes, plus larges et plus, beaucoup plus décorées. Donc des fois, elles ont servi aussi à montrer un petit peu voilà, une fantaisie ou des décors qu'on ne pouvait plus porter sur les kimonos eux-mêmes.
Est-ce que vous pourriez nous parler des origines des kimonos qui sont visibles à l'exposition?
Alors la plupart, ce sont des kimonos qui viennent des collections du Victoria and Albert Museum de Londres. Souvent, pour un musée, un sujet d'exposition, c'est aussi un moyen de valoriser, de montrer ses collections. Et aussi parce que quand on fait venir des prêts, et surtout des prêts de l'étranger, quand il y a des transports très longs, bah, ça coûte très cher. Donc, on essaye de limiter en fait les provenances et d'utiliser les collections enfin, locales. Voilà, donc c'est pour ça que cette exposition qui est produite par ce musée anglais donc montre presque essentiellement des collections anglaises, donc du Victoria and Albert Museum. Il y a aussi des collections particulières. Et puis à la fin, vous verrez aussi des créations contemporaines qui sont prêtées parfois par les artistes qui les ont créées.
Eh bien justement, enfin, est-ce que vous pourriez nous parler de ces créateurs contemporains dont on peut voir les kimonos exposés au musée du Quai Branly? Comment est-ce que ces pièces ont été choisies? Et puis, comment est-ce que ces créateurs aussi ont été choisis?
Les commissaires les ont choisis parce qu'ils sont représentatifs en fait de la mondialisation en fait du kimono. Hein. Donc il y a des créateurs un petit peu du monde entier, qu'ils soient japonais, nord-américains ou européens. Il y a par exemple un créateur de kimono d'origine camerounaise qui s'appelle Serge Mwangé, qui est à la fois influencé par la haute couture française parce qu'il a travaillé à Paris. Il a travaillé aussi à Tokyo où il a appris aussi la fabrication des kimonos. Et puis aussi, il a utilisé des textiles, des motifs ouest africains. Voilà, donc il fait en quelque sorte un kimono qui est inspiré à la fois par les textiles africains et japonais. Voilà, ce sont ce type de créations qui ont été choisies parce qu'elles sont représentatives, parce qu'elles sont originales, et puis elles montrent aussi comment évolue aujourd'hui le kimono.
Eh bien, merci Julien Rousseau d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que l'exposition Kimono est visible jusqu'au 28 mai 2023 au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
もしもあの街のどこか